Nouveau rendez-vous sur CFM Rodez tous les 15 jours, désormais une émission intitulée Mémoire Aveyronnaise. Un bénévole qui va nous raconter peut-être des histoires autour de l'Aveyron ou des Aveyronnais, on va voir, a eu envie de présenter cette émission avec moi sur CFM Rodez, c'est Vincent Besombe. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vincent, jeune homme, parce que quand on dit Mémoire d'Aveyronnais, on pourrait penser que tu es un ancien, mais non.
Oh, 45 ans, ça ah, je sais pas, je suis entre deux os, tu vois.
Tu fais moins. Vincent, passionné d'histoire, comme on va le découvrir tous les 15 jours sur CFM Rodez depuis très longtemps. Et puis Vincent, tu es aussi, attention à côté, président du comité de Rodez du Souvenir Français.
Oui. Effectivement.
Tu peux nous en dire un petit mot ?
Oui, bien sûr. Oui, ben le Souvenir Français, c'est une association, une très très vieille association mémorielle, qui a été créée dans les années 1880 par un Alsacien. En fait, nous nous occupons des tombes des soldats morts pour la France, mmh. et également de tout ce qui touche au voilà au devoir de mémoire, la mémoire. Et c'est vraiment ce qui va nous toucher aujourd'hui et dans nos chroniques.
Mmh. Alors, c'est-à-dire, tu participes aux commémorations ?
Tout ce qui est commémoration. Tout ce qui est... Alors moi, je suis collectionneur depuis que je suis tout petit d'objets de la Première, la Seconde Guerre mondiale et aussi de la Résistance. Donc, je fais aussi des... Quand on me demande des expositions, j'interviens en milieu scolaire aussi, voilà, pour parler de la déportation, pour parler de la Résistance, pour parler des poilus de la guerre de 14, de Dunkerque, de plein de choses sur les deux guerres.
Alors, là, c'est un nouveau rendez-vous sur CFM Rodez, cette émission avec toi, Vincent, Mémoire Aveyronnaise. On est au début du mois de septembre, on te retrouvera deux fois par mois avec des sujets différents, on va y revenir évidemment avec un premier cette semaine, mais juste un petit retour sur l'été parce qu'en parlant de commémoration, l'été il y en a pas mal en Aveyron. Hein.
Il y a beaucoup de commémorations.
Ouais. Il y a eu quoi ? Bon, il y a eu les fusillés de Saint-Radegonde, non ?
Alors, il y a eu les fusillés de Saint-Radegonde, mais pas que. Ouais. Hein. Il faut savoir que forcément après le débarquement du 6 juin, la résistance dans nos campagnes a récupéré beaucoup de monde, et surtout après le débarquement du 15 août en Provence,
oui.
Là, 44. Les deux sont en 44. 6 juin 44, c'est pour la Normandie, ouais. Et 15 août 44 pour la Provence.
D'accord.
Là, les Allemands commencent un petit peu à vouloir s'échapper, à vouloir regagner l'Allemagne. Entre ces deux débarquements, et là donc il va y avoir beaucoup d'opérations de maquis, également aussi beaucoup malheureusement d'opérations de représailles. La plupart des stèles que l'on voit, il y en a beaucoup en Aveyron qui commémorent donc des morts de résistants ou des morts de civils. Il y a des exemples de civils qui étaient en train de faucher dans les champs qui sont fait exécuter parce que la colonne passait juste sur la route à côté. Donc c'est principalement au mois d'août, donc il y en a vraiment beaucoup.
Bon, et ben d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de parler de ces stèles d'une part, ou de ces
commémorations sur l'appartement. Avec grand plaisir. Oui,
dans ton émission, Vincent, c'est toi qui choisis les sujets de chacune des émissions.
Oui.
Alors, pour cette première, Vincent, tu as eu envie de nous faire connaître, de nous faire nous souvenir de Monseigneur Ginisty.
Oui, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, qui est un personnage extraordinaire, qui est, on a tendance à l'oublier, qui est natif de l'Aveyron et qui a été évêque de Verdun, et également c'est à lui que l'on doit l'ossuaire de Douaumont.
Voilà. D'accord. Alors attends,
je vais trop vite.
Non, c'est très bien. Mais Monseigneur Ginisty, donc évêque, parce que Monseigneur, à la limite, j'aurais pu dire, est-ce que c'est un gentilhomme du Moyen Âge ? Non.
Non,
Monseigneur Ginisty.
Il n'est pas l'or, Monseigneur.
Voilà. Était évêque. Mais était évêque quand il est né, quand Monsieur Ginisty ?
Alors, il est né le 8 mai 1864. Il est né dans un petit hameau qui s'appelle le Colombier. C'est sur la commune de l'ancienne commune de la Roque-Valzergue, qui est actuellement commune de Saint-Saturnin-de-l'Aisne.
Alors, c'est vers où ça ? Parce que là.
C'est vers Campagnac.
Ah, d'accord, ok.
Voilà.
Né dans ce petit village.
Oui.
Donc, Aveyronnais.
Aveyronnais, bien sûr.
Ah, en 1864, d'accord.
On est sous Napoléon III, Second Empire.
Merci. Comment il s'est retrouvé, Monseigneur, ce petit garçon de Campagnac ?
Alors, lui est le 12e d'une fratrie de 14 enfants.
Oh.
Et oui, à l'époque il n'y avait pas la radio.
Il n'y avait pas la télévision
non plus.
Donc les hivers étaient frais.
Voilà, les hivers étaient frais.
Plus froid que maintenant.
Tout à fait. En fait, c'est un personnage qui était profondément croyant, profondément religieux. Il a fait donc sa scolarité en Aveyron, l'école à Saint-Saturnin-de-l'Aisne, le collège à Saint-Gabriel à Sainte-Afrique, et puis Sainte-Marie à Rodez. Et de Sainte-Marie, voilà, sa foi a grandi et il est parti pour le petit séminaire de Rodez. Et de là, alors le petit séminaire, ça préparait au grand séminaire. Ouais. Le grand séminaire, c'est réellement l'école de prêtrise pour devenir prêtre. Et de là, il part pour le grand séminaire Saint-Sulpice à Paris.
En quelle année ?
Dans les années 1880, je pense.
Ouais, vers
fin 79-80, parce que il est ordonné prêtre à la. Donc c'est la fin des études pour le séminaire. Il est ordonné prêtre à la cathédrale de Rodez le 21 septembre 1889.
À 25 ans.
Voilà. Il est ordonné par un très grand évêque de l'Aveyron, il est ordonné par Monseigneur Bourré, qui est évêque de Rodez et de Vabres.
D'accord, qui ne buvait pas pourtant.
Non,
du tout.
Du vin de messe.
Du vin de messe, voilà. Oui. Voilà, c'est tout. Donc, il était prêtre où, pour débuter ?
Alors, pour débuter, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Il devient prêtre, ouais. Mais on l'envoie à Rome pour approfondir ses études religieuses. Il va revenir après à Rodez. En fait, il va devenir aumônier de la garnison de Rodez. La garnison de Rodez, à l'époque, se composait c'était le 81e régiment d'infanterie de ligne. Donc, il va devenir aumônier et il aura la très bonne idée de fonder le foyer du soldat. Pour le repos.
Mais le foyer du soldat, c'est lui qui a inventé le foyer du soldat.
Alors ça existait déjà, sur Rodez, c'est lui qui a.
D'accord. À l'époque, c'était à la dure. Il n'y avait pas de foyer du soldat, et lui il est arrivé, il a dit attendez, il faut qu'il boive un coup.
Voilà, tout à fait. Donc il soignait, il devait soigner les gosiers et aussi les âmes.
Bien sûr.
Alors il a été donc aumônier militaire de la garnison de Rodez.
Elle était où cette garnison à l'époque ?
Alors je ne vais pas en parler maintenant.
Ah bon ? Ah bon ?
Et non.
Secret.
Non, je laisse pas secret, mais un petit suspense, okay. Puisque notre prochain sujet, dans 15 jours, voilà, sera sur justement l'histoire des casernes à Rodez. Ah. Je peux juste dire qu'à l'époque, il y avait 3 casernes militaires et une caserne de gendarmerie.
En même temps ?
En même temps sur Rodez. Ah oui, grosse garnison.
Ah ouais, grosse garnison. Oui. Alors Marc.
Je demande de l'indulgence et un peu de patience aux auditeurs pour nous retrouver pour en parler dans 15 jours.
Ok.
Et en même temps, en fait, il va être le secrétaire particulier de l'évêque qui l'a ordonné prêtre, de Monseigneur Bourré, jusqu'à la mort de Monseigneur Bourré en 1896. Il aura une paroisse à proprement parler à partir de 1899. Il sera le responsable de la paroisse minière de Cransac. Alors pour nos amis qui auditeurs qui habitent à Cransac, l'église qui est dans le centre du village, c'est lui qui l'a fait construire.
D'accord, Monseigneur Ginisti.
Monseigneur Ginisti.
C'est quoi son prénom d'ailleurs ?
C'est Charles Ginisti. Son prénom complet, parce qu'à l'époque on avait toute une litanie de prénoms, c'est Charles-Marie-André Ginisti.
Très bien.
Alors Ginisti, j'insiste parce que en Aveyron on a des Ginisti, on a des Ginesté. Ouais.
Et prêtre de Cransac.
Voilà, prêtre de Cransac et bâtisseur. Hein, on va le voir tout au long de notre discussion. Donc déjà, il crée le foyer du soldat. Il bâtit cette église à Cransac, parce qu'il y avait déjà une église, mais très éloignée du centre. Donc voilà, il va réunir cette église plus près des gens, plus près des paroissiens. Il va être vraiment aimé à Cransac. Il va créer un centre aussi pour le catéchisme, pour accueillir les enfants. Voilà, donc il va laisser un très très bon souvenir à Cransac. Et de là, en 1906, il va devenir archiprêtre. Archiprêtre, c'est assez important. Un archiprêtre, c'est le délégué de l'évêque pour un territoire dans le diocèse. Mmh. Il va être nommé archiprêtre pour la paroisse de Sainte-Afrique. Et là aussi, l'église était déjà en construction à Sainte-Afrique. Il va achever la construction de l'église de Sainte-Afrique et qu'on connaît bien avec cette superbe flèche. Prêtre bâtisseur,
voilà.
Il va avoir quelques petits soucis.
Ah, il n'y avait pas le permis de construire
à Sainte-Afrique.
Ah bon.
Non, c'est pas ça. Comme quoi, pas, il y a des choses assez particulières dans les vies. Il va être condamné à un mois de prison avec sursis.
Ah, qu'est-ce qu'il a fait?
Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, en fait, il arrive à Sainte-Afrique en 1906.
Ouais.
1906, c'est les gros problèmes
entre
le clergé et l'État, puisque c'est la loi de séparation 1905, de l'Église et de l'État.
Là, voilà, tout à fait. Ah oui, c'était compliqué.
Et oui. Et donc, lui, il va s'interposer un petit peu, et il va prendre position de manière très énergique, apparemment pour l'époque, contre l'expulsion des religieux. Et il sera condamné, faut le faire quand même, pour l'époque, à un mois de prison avec sursis. Mais bon, c'est quand même une condamnation.
Mais ça rigolait pas.
Ça rigolait pas.
Concernant le respect des lois à l'époque, celle-là
ou
les autres.
Surtout celle-là.
Et même, c'était tendu. En même temps, j'ai envie de te dire, un mois avec sursis, il s'en sort pas trop mal. Pour
mais
un mec qui a pas voulu évacuer les locaux qui sont devenus des locaux de l'État et qui a passé plus à l'église.
C'est ça.
Hein? Bon, d'accord. Donc un petit mois de prison avec sursis, c'est-à-dire il a pas fait de prison en fait.
Oui.
Mais ça.
Ah oui, avec sursis, ça planait. C'est-à-dire, la prochaine fois, attention.
D'accord. Voilà, pour 1906, Monseigneur Ginisti, il avait à l'époque une quarantaine d'années, quoi.
Oui, tout à fait, ouais. Mmh. Oui.
Ensuite, pour arriver à la Première Guerre mondiale et à ce fameux ossuaire de Douaumont, dans le nord de la France, qui est dû à l'Aveyronnais Charles Ginisti, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il va être nommé évêque.
Ouais.
On est nommé évêque par Rome.
Oui.
Ce pauvre Monseigneur Ginisti aura pas de chance, puisque je vais donner les dates de la période où il a été évêque. Il est nommé évêque en fait au mois de mars 1914.
Quatre mois avant la guerre.
Avant la guerre. Et jusqu'à son décès en janvier 1946.
Ah oui, c'est fait les deux.
Donc à Verdun, position vraiment cruciale par rapport à l'Allemagne. Il faut pas oublier que depuis que l'Alsace et la Lorraine étaient annexées, la frontière avec l'Allemagne n'était qu'à 45 kilomètres de Verdun.
Ouais.
Par rapport justement au territoire de Moselle qui était annexé. Et puis bon, point aussi symbolique pour la Seconde Guerre mondiale par rapport à l'armée allemande, puisqu'ils n'avaient pas pu prendre Verdun pendant la Première Guerre mondiale, et ils la prendront sans combat pendant la Seconde.
Et là, Monseigneur Ginisti, lui, au moment de la Première Guerre mondiale, donc il est nommé à Rodez, au mois de mars, mais donc Verdun, tout ça, il n'a pas connu.
Alors, il n'est pas nommé à Rodez. Enfin, il était prêtre à Sainte-Afrique.
Ouais.
Il était prêtre à Sainte-Afrique. Il apprend, étant archiprêtre à Sainte-Afrique, qu'il est nommé évêque de Verdun.
Ah, évêque de Verdun, pardon, j'avais pas...
Non, évêque de Verdun.
Ah, ok.
D'accord. Évêque de Verdun.
Ah ouais. Évêque de Verdun, nommé au mois de mars 1914.
Alors, il est nommé le 11 mars 1914. Mmh. Il est sacré évêque à l'église, parce qu'il y a tout un cérémonial. Mmh. Il est sacré évêque en son église de Sainte-Afrique le 17 mai.
Ouais.
1914, c'est toujours. Et il est intronisé, c'est-à-dire qu'il reçoit sa cathèdre, il reçoit son trône épiscopal en sa cathédrale de Verdun le 11 juin. Alors là, on se rapproche encore plus de la guerre. C'est ça, le 11 juin 1914. Donc, évêque de Verdun.
Bon, alors, qu'est-ce qu'il a fait au mois d'août, au mois de septembre 1914? Il a déménagé ou il est resté sous
les
bombes?
Non, du tout. En fait, la ville de Verdun était proche du front, mais la ville de Verdun n'a pas trop souffert jusqu'à la fameuse bataille de Verdun. La bataille de Verdun commence le 21 février 1916 et le premier obus qui va s'abattre, qui va exploser sur la ville de Verdun, va exploser pile dans la cour de l'évêché. Du palais épiscopal de Monseigneur Ginisti.
Aïe.
Voilà. Donc, obligé de partir de Verdun. Il part à quelques kilomètres, il part à Bar-le-Duc.
Ouais,
voilà. Bar-le-Duc, c'est connu pour à côté de Reims. Voilà, c'est très connu pour les spécialistes de la Première Guerre mondiale, puisque Bar-le-Duc Verdun, c'est la fameuse voie sacrée.
Où
nuit et jour, il y avait un turnover de camions, de troupes, d'armement et de. Donc c'était une ville clé. Alors, Monseigneur Ginisti a décidé de ne pas rester caché. Monseigneur Ginisti, C'est vraiment ému de tous ces blessés avant qu'il y ait l'obus qui tombe sur sur son palais épiscopal. Déjà, il avait prêté la grande galerie de l'évêché pour installer des lits. Ça servait d'hôpital complémentaire. Il y avait des hôpitaux complémentaires dans tous les départements, même en Aveyron, on en avait vraiment beaucoup. Donc déjà, il était au contact. Il allait au devant de ses blessés. Et en fait, il a passé toute la guerre de 14 à aller au devant de ses blessés, à bénir les morts, au mépris même de sa propre sécurité et de sa propre vie, parce que alors il y a une anecdote, il allait d'hôpitaux en hôpitaux en véhicule, il a été pris pour cible par une batterie d'artillerie allemande qui les obus explosaient tout autour de lui. Enfin, il a risqué sa vie à plusieurs reprises. Et c'était vraiment quelqu'un, c'est pour ça que c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est touchant. C'était pas un prince de l'Église, mais c'était vraiment un homme bon,
de terrain,
très très proche des gens. Les témoins de l'époque ont rapporté que souvent ils le voyaient pleurer face à tous ces blessés, face à tous ces morts, toujours un mot réconfortant. Donc un grand grand monsieur, vraiment.
Qui est donc passé malgré les difficultés au travers de cette première guerre mondiale,
oui.
Et qui a eu envie, alors je sais pas à quel moment, enfin envie.
Pendant la guerre.
Pendant la guerre.
Ouais.
De créer un endroit de mémoire pour rendre hommage aux victimes.
Tout à fait. En voyant toute cette souffrance, alors les gens l'appelaient, il avait des surnoms, l'évêque des soldats, l'ami des soldats blessés, c'est parmi les surnoms très affectueux qu'on lui donnait à l'époque. Et très tôt, il a eu l'idée de faire, entre guillemets, c'est pas réellement une cathédrale, mais ce qu'on appellera plus tard la cathédrale des morts, de réunir dans un lieu justement la mémoire, l'hommage, et c'est ce qui deviendra après la guerre ce fameux ossuaire de Douaumont.
Mais oui. Il a été inauguré quand l'ossuaire de Douaumont?
Alors l'ossuaire de Douaumont a été terminé en 1932. La première pierre a été posée le 22 août 1920, donc terminée en 1932.
Vous en travaux, oui, parce que c'est un...
Oui.
Alors ça ressemble pas vraiment à une cathédrale au point de vue architecture, mais c'est un gros édifice.
Oui, hein. Avec un phare, et un phare, le mot est vraiment juste, puisque au sommet, justement, ça peut être éclairé et rayonné sur le champ de bataille, installé en plein milieu du champ de bataille, là où vraiment il y a eu les plus durs combats.
Mais cet ossuaire de Douaumont, c'est pas l'évêque Charles Ginisty qui l'a payé, c'est l'État français. Non, comment
Alors, il y a eu des souscriptions.
Ah ouais,
il y a eu des souscriptions. Dès que la guerre a été terminée, Monseigneur Ginisty, qui avait une grosse aura à l'époque, il a été décoré de plein de médailles, la France bien entendu, le président Poincaré qui lui remettra personnellement la Légion d'honneur dans les souterrains de la citadelle de Verdun le 13 octobre 1918, le roi des Belges lui donnera une de ses plus grandes décorations aussi. Dès la guerre finie, en fait, il va partir. Récolter des sous. Il va partir en Belgique, il va partir au Luxembourg, il va partir en Afrique, il va partir en Angleterre, il va partir aux USA, il va partir au Canada, et il va récupérer vraiment beaucoup, beaucoup d'argent pour réussir à fonder donc cet ossuaire.
De Douaumont. 1932, ossuaire qui existe aussi toujours. Hein.
Ah, toujours.
Évidemment, dans
toujours,
l'ordre
évidemment,
de la France.
Évidemment.
Il est décédé en. Charles Ginisty, Monseigneur Ginisty, il est décédé en 1946. Donc entre 1932 et 1946, qu'est-ce qu'il a fait de beau? Il est revenu en Aveyron à un moment donné ou pas du tout?
Ah, il revenait souvent en Aveyron.
Ouais.
Oui, il revenait souvent en Aveyron. Moi, j'ai eu la chance de visiter sa maison natale au Colombier.
Ouais.
Je salue d'ailleurs Monsieur Ginisty, qui est un arrière-petit-neveu de Monseigneur Ginisty, qui habite toujours dans la maison.
D'accord.
Il revenait régulièrement en vacances. Les prêtres, ont des vacances,
comme
n'importe qui.
Oui.
Il revenait beaucoup en famille. Il avait d'ailleurs une chapelle dans les combles de la ferme, une très belle ferme fortifiée. Donc il revenait souvent et il continuait vraiment ce travail de mémoire, et puis aussi son travail de pasteur, de berger du diocèse.
Il est resté évêque de Verdun jusqu'en 46 ?
Jusqu'en 46, jusqu'à sa mort.
De Verdun. Ouais. Et alors pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il a fait ?
Et la Seconde Guerre mondiale...
Parce que là, il avait plus de 70 ans. Hein.
Il avait plus de 70 ans. Ouais. Alors, je sais pas à quelle époque était la retraite des évêques. Aujourd'hui, ils peuvent plus être évêques après 75 ans.
D'accord.
Ils sont obligés de prendre la retraite après 75 ans.
Il avait à peu près
À l'époque, apparemment, parce qu'il est mort à 82 ans. À l'époque, ça marchait pas comme ça encore. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai pas trop d'informations là-dessus. Beaucoup d'Alsaciens et de Lorrains sont partis. Je sais que l'évêque de Strasbourg, lui, a été réfugié pendant pas mal de temps à Périgueux. Il semblerait qu'il ait passé quelques mois en Charente, mais voilà, j'ai pas trop d'informations là-dessus.
Il est enterré où ?
Ah, il est enterré. Alors lui a la chance de reposer auprès des soldats qu'il a vraiment tant aimés. Il est enterré dans la chapelle de l'ossuaire de Douaumont. Il y a deux tombes. Il faut expliquer ce qu'est un ossuaire, en fait. Il y a que deux personnes qui sont enterrées dans cet ossuaire.
Qui sont
connues.
Ouais. Ah, connues.
Voilà, connues. Ouais. C'est Monseigneur Ginisti et le premier aumônier de l'ossuaire, qui s'appelait, sans plaisanterie, qui s'appelait le Père Noël.
Ah, oh, bah d'accord.
Voilà.
Ils ont dû bien rigoler à l'époque.
C'est ça. Ouais. En fait, cet ossuaire doit collecter les os trouvés sur le champ de bataille, donc des soldats qui sont totalement inconnus. Devant l'ossuaire, il y a une énorme nécropole nationale qui comprend plus de 16 000 soldats qui, eux, sont connus. Moi, j'ai le frère de mon arrière-grand-père qui a sa croix devant l'ossuaire. Mais l'ossuaire, voilà, c'est vraiment pour récolter les os. Et il y a quelque chose aussi, c'est un symbole de paix, puisque personne ne peut dire si l'os appartient à un Français ou à un Allemand. Donc, adversaire dans la bataille et, je dirais, frère pour l'éternité. Quoi.
Charles Ginisti, Monseigneur Ginisti, donc à Véronais, mais... enterré à Douaumont, qui a vécu sa vie, la plus grande partie de sa vie
à Verdun,
et dans le reste de la France. Ginisti, ici à Rodez ou sur l'Aveyron, il a laissé des traces, style des rues, des places, il y a des lieux qui portent son nom à ta connaissance ou pas?
Ça serait intéressant de savoir. Je pense qu'il doit y avoir des choses justement du côté de Saint-Saturnin de l'Aisne.
Ouais.
Dans l'église de Saint-Saturnin, il y a une plaque justement en l'honneur de Monseigneur Ginisti. Dans l'église de La Roque-Valsergue, son village natal, le hameau où il est né, il y a des choses aussi dans l'église. Il y a ces décorations qui sont conservées. Il y a des objets personnels aussi. Saint-Afrique aussi. Quand on visite je veux pas me tromper de dénomination, mais je crois que c'est la maison de la mémoire ou la maison du souvenir à Saint-Afrique, il y a sa grande chape, c'est les grandes capes brodées au fil d'or là pour les processions. Et il y a aussi un de ses objets de sa fonction, il y a sa crosse d'évêque.
Ah ouais.
Voilà, que l'on peut voir à Saint-Afrique.
Charles Ginisti, donc Monseigneur Ginisti, dont tu as eu envie de nous raconter l'histoire, la vie, à l'occasion de ce premier rendez-vous de mémoire véronaise avec toi, Vincent Beson, passionné d'histoire, collectionneur et, on le rappelle aussi, président du comité de Rodez du souvenir français. Merci beaucoup pour tes connaissances, ce savoir que tu partages avec nous sur CFM.
Merci beaucoup.
Tu nous as annoncé que dans 15 jours, pour la numéro 2 de tes émissions, on allait s'intéresser aux casernes de Rodez.
Oui.
Caserne au pluriel.
Caserne au pluriel.
Okay.
Caserne militaire.
Caserne militaire.
Voilà, je parle pas de caserne, pas les pompiers.
Bon, bah écoute, vivement. Dans 15 jours, on sera plus sur les casernes véronaises. Merci beaucoup, Vincent, de rejoindre l'équipe de CFM. Vraiment, c'est un plaisir de te retrouver ces sujets, d'apprendre plein de choses avec toi. Je vais te laisser le mot de la fin, peut-être, Vincent.
Merci à vous, puisque la passion se partage. Hein, oui. Sans le partage, on va pas bien loin. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.
Merci Vincent. Et j'indique aussi que l'on peut te suivre sur Facebook. Tu as créé une page pour partager ta passion, ta curiosité, tes connaissances autour de l'histoire. Pour te retrouver, te suivre, Vincent.
Alors, donc, c'est une page Facebook Histoire et Mémoire 14-18 et 39-45 Rodez-Aveyron.
Ça a le mérite d'être clair.
Voilà.
Merci Vincent. À dans 15 jours.
À dans 15 jours.